CQFD.
Alors Adrien Zerbini, les douleurs chroniques, on le sait, sont un calvaire qui touche d'ailleurs beaucoup de monde. Hein, des douleurs qu'on comprend un peu mieux, enfin nous en tout cas on le sait depuis hier.
Voilà, la douleur, on le sait, c'est un signal d'alarme, un dispositif précieux de notre organisme, mais parfois l'alarme dysfonctionne, c'est un peu comme les alarmes de voiture qui sonnent tout le temps. Et ça c'est le principe de la douleur chronique. On estime en Europe que 20% de la population souffre à un moment ou à un autre de son existence de douleurs chroniques. C'est énorme et c'est très handicapant parce que cette douleur permanente est souvent associée à de l'anxiété, à une perte d'émotions positives et à une hypersensibilité à la douleur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on comprend encore assez mal cette douleur chronique. C'est le sujet de nombreuses recherches, notamment à l'Institut de génomique fonctionnelle de l'Université de Montpellier, qui a publié hier une étude sur le sujet dans Molecular Psychiatry, une étude qui décrypte les mécanismes de la douleur chronique, notamment dans une région bien précise du cerveau.
Bonjour Cyril Goudet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de génomique fonctionnelle de l'Université de Montpellier, justement. Vous êtes un des auteurs de cette étude publiée hier. Alors, cette étude, elle est assez technique. On va donc essayer d'y aller un petit peu pas à pas, si vous le voulez bien. Donc, vous vous êtes intéressé à une région très particulière du cerveau, d'abord.
En effet, on s'est intéressé à une petite région du cerveau qui s'appelle l'amygdale. La raison pour laquelle on s'est intéressé à cette petite région du cerveau, c'est parce que, comme vous l'avez noté en introduction, il y a un lien assez étroit dans l'expérience douloureuse entre la sensation et l'émotion. Et c'est ce qui nous a conduit à nous intéresser à cette structure du cerveau, qui est connue pour jouer un rôle fondamental dans le contrôle des émotions.
On a une liaison assez mauvaise, ouais. Cyril Goudet. Peut-être qu'on va essayer. Alors, il faut savoir que l'université de Montpellier, d'où vous nous appelez, vient d'avoir un problème téléphonique. Donc, on a dû vous appeler sur le téléphone. Ah non, il faut connaître les dessous de voilà. Donc, on a dû vous appeler sur le téléphone portable. Mais là, la ligne est particulièrement mauvaise. Alors, on va essayer d'une manière ou d'une autre, je pense, de vous rappeler parce que ça paraît sage, étant donné qu'on va quand même tenter de comprendre cette publication pendant une petite dizaine de minutes avec vous et que donc, il est quand même préférable de pouvoir comprendre ce que vous nous dites.
Et effectivement, notre réalisateur est maintenant en train de composer le numéro. Donc, on va. Alors, si vous avez votre téléphone fixe à côté de vous et qui fonctionne et qui sonne, prenez-le.
Voilà.
Ok, on reçoit
ça. Voilà. Visiblement, ça sonne.
C'est les joies du direct. Hein. Cette émission n'est pas enregistrée en avance.
Direct,
voilà. Eh bien, ça va beaucoup mieux comme ça, semble-t-il. Donc,
l'amygdale.
Oui. Donc, je vous disais, l'amygdale, c'est une région qui est connue pour jouer un rôle fondamental en fait dans le contrôle des émotions, mais pas que les émotions. En fait, depuis ces dernières années, nombreuses études en ont montré que l'amygdale, elle joue un rôle également dans la douleur. Elle est capable d'intégrer les informations douloureuses, et ce faisant, elle est capable également de réguler les composantes sensorielles et émotionnelles de notre réponse à la douleur.
Donc, il y a vraiment un lien entre l'amygdale et la douleur. Région donc impliquée dans la gestion de la douleur chez tous les mammifères, sauf erreur. Alors, vous vous êtes intéressé en particulier à un récepteur ou un transmetteur particulier de cette amygdale. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, effectivement. Alors, on s'est intéressé aux acteurs de la communication entre les cellules nerveuses qui peuplent notre cerveau, qu'on appelle les neurones. Et donc, il faut savoir que ces neurones communiquent entre eux, donc ça envoie des messagers chimiques, et ces petits messagers chimiques, on les appelle des neurotransmetteurs. Alors, le neurotransmetteur, il est relargué dans une zone particulière qu'on appelle la synapse. Il va traverser cette synapse, et il va aller agir sur le neurone suivant. Et il agit en étant recapté par des protéines qu'on appelle des récepteurs. Et ce récepteur va induire une réponse qui va être intelligible pour le neurone suivant et qui va le conduire à adapter son comportement.
Donc c'est sur ce récepteur que vous avez travaillé.
Exactement. Si je peux prendre une analogie pour peut-être que les gens comprennent, le neurotransmetteur c'est une clé et le récepteur est une serrure. Et une clé s'adapte à une serrure bien particulière et va être capable soit de l'ouvrir, soit de la refermer. Ben, c'est un peu pareil entre un neurotransmetteur et un récepteur. Le neurotransmetteur va être capté par ce récepteur et va induire une cascade d'événements qui vont conduire à une adaptation du comportement du neurone qui l'a capté.
Ouais, tout cela au niveau chimique. Alors maintenant qu'on a planté le décor, dans ce décor, vous avez mené une expérience un peu particulière. Expliquez-nous ça.
Oui, alors on s'est intéressé déjà à un neurotransmetteur particulier qui s'appelle le glutamate et qui est le messager qui est impliqué dans le cerveau et qui transmet principalement l'information douloureuse. Alors ce glutamate, pour schématiser en fait, dans un cerveau atteint de douleurs chroniques, il y a un dérèglement qui s'opère, il y a trop de glutamate qui est relargué. Donc il faut trouver des mécanismes qui sont capables de diminuer ce relargage de glutamate. Mmh. Et pour ça, on s'est intéressé à des récepteurs particuliers qui sont des sortes de soupapes de sécurité, si vous voulez. ils sont sur le neurone même qui relargue le glutamate. Ils vont être capables de sentir le glutamate qui est relargué et de demander au neurone de diminuer son activité. C'est un petit peu comme un limitateur de vitesse dans votre voiture qui va vous indiquer que vous êtes en train de dépasser la vitesse autorisée.
Très clair.
Et alors, ce récepteur, qui est donc cette clé qui permettrait d'éviter qu'on relargue trop de glutamate, comment est-ce que vous avez pu tourner la clé dans le récepteur?
Et l'activer.
Écoutez, on a mené donc, c'est une vaste étude en fait qui est menée avec différents collaborateurs. Donc nous sommes des spécialistes de neuropharmacologie de la douleur à Montpellier. On a été aidés par des neurophysiologistes, des neuroanatomistes et également des chimistes. Et la première expérience qu'on a menée, c'était de savoir si effectivement ce récepteur-là était bien présent au niveau de l'amygdale. C'était pas connu avant. Et s'il l'était, à quel niveau? Donc on a mené des études par microscopie et on a pu voir que ce récepteur particulier est bien présent dans l'amygdale et qu'il est présent dans des neurones qui reçoivent l'information, les informations sensorielles qui rentrent dans l'amygdale. Donc l'autre question, c'était de savoir si ce récepteur il est bien là, est-ce qu'il est fonctionnel? Donc on a mené des études en électrophysiologie et on a utilisé des petites clés artificielles qui vont reconnaître spécifiquement ce récepteur et qui vont l'activer. Et ce faisant, on est capable de montrer que l'activation de ce récepteur va modifier la façon dont l'information arrive au niveau de l'amygdale. Et la troisième question, la question suivante, c'était de faire le lien entre ces phénomènes qui arrivent au niveau cellulaire, moléculaire, et le comportement. Et donc la question, c'était de savoir si la modulation de la communication cellulaire qu'on observe se traduit bien par un changement de notre comportement vis-à-vis de la douleur. Et donc pour ça, on a travaillé sur des souris, des modèles de souris qui sont atteintes de douleurs chroniques inflammatoires, et qui présentent à la façon équivalente donc aux patients qui souffrent de douleurs chroniques une hypersensibilité à la douleur, qui présente également une hyperanxiété et des symptômes prodépressifs.
Donc vous avez pu, avec ce modèle animal, effectivement voir s'il y avait un lien entre ce récepteur qui s'appelle MGlu4, si j'ai bien compris votre étude, et cette douleur chronique.
Effectivement, donc ce qu'on a pu montrer, c'est quand on activait le récepteur MGlu4 dans l'amygdale, on était capable de soulager les différents symptômes dont je vous parlais, émotionnels et sensoriels, qui sont associés aux douleurs chroniques.
Et on parlait de la lumière en introduction, ouais. Juste pour cette histoire
voilà.
De lumière.
Et c'est là où on en arrive à une des nouveautés de cette étude, c'est qu'on a utilisé une nouvelle technique qui s'appelle la photopharmacologie, et qui permet de prendre le contrôle en direct d'un récepteur grâce à des petites clés qui sont contrôlables par la lumière.
Ça veut dire que cette molécule que vous mettez, cette clé en fait, ça s'appelle un ligand, hein, pour prendre le terme médical.
Exactement.
Ou de recherche biologique, ce ligand que vous mettez sur le récepteur sur l'amygdale, il peut être activé ou inactivé avec de la lumière.
C'est exactement ça. Donc je reprends l'analogie entre la clé et la serrure. Ce qu'on a créé, ce sont des clés qui changent de forme sous l'effet de la lumière. Quand on les allume avec une lumière verte, ces clés vont rentrer dans le trou de la serrure et vont être capables de l'ouvrir. Par contre, quand on va allumer ces clés avec une lumière violette, elles vont changer de forme et ne vont plus être capables de rentrer dans le trou de la serrure.
Alors, si je résume pour garder votre analogie, vous allumez une lumière verte qui fait que cette fameuse clé peut rentrer dans la serrure du récepteur, ce qui fait que l'amygdale va produire moins de glutamate et que donc il y aura moins de douleur.
C'est exactement ce qu'on observe. Effectivement, on peut observer donc en temps réel le lien entre l'activation de ce récepteur et le comportement. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que sous l'effet de la lumière verte, on fait disparaître les symptômes associés aux douleurs chroniques, tandis que lorsqu'on allume avec une lumière violette, ces symptômes reviennent très rapidement. Et c'est un processus qui est rapide et qui est réversible parce qu'on peut faire tourner cette boucle plusieurs fois et faire apparaître ou disparaître ces symptômes. En fait, c'est comme si ce récepteur agissait comme un interrupteur naturel dans les circuits de l'amygdale qui traitent la douleur.
Alors, la question pratique maintenant, vous avez découvert ce lien entre ce récepteur et la douleur chronique. Quand est-ce qu'on pourrait imaginer, ou qu'est-ce qui reste à faire pour pouvoir imaginer appliquer cette découverte à la prise en charge de la douleur chronique chez l'humain?
Alors malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes encore loin d'une application chez l'homme. Il faut bien comprendre pourquoi je dis malheureusement, c'est parce que les traitements actuels des douleurs chroniques sont vraiment assez peu efficaces dans l'ensemble, et donc on a un grand nombre de patients qui souffrent de ces douleurs et qui ne sont pas soulagés. Malheureusement, le délai entre la découverte fondamentale que nous avons faite, qui est porteuse d'espoir, parce que ça montre que des systèmes existent au sein de l'amygdale qui sont capables de réguler de façon rapide la douleur, Malheureusement, le lien entre ces travaux de laboratoire et la clinique est encore distant. Il faudra plus d'études, nous ici au laboratoire, pour mieux comprendre comment fonctionne ce récepteur, comment fonctionnent encore les circuits. Il faudra l'aide de médecins pour aller plus près des essais cliniques. Et puis, il faudra l'aide de l'industrie pharmaceutique pour le développement de molécules qui sont des candidats médicaments.
Et oui, mais en tout cas, comme beaucoup de recherches fondamentales, c'est très très prometteur. Merci beaucoup Cyril Goudet. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de génomique fonctionnelle de l'Université de Montpellier, d'où vous étiez en direct avec nous et qui visiblement a réparé sa centrale téléphonique, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Vous avez répondu à l'invitation d'Adrien Zerbini. Je vous souhaite une très très bonne journée du côté de Montpellier.
Je vous remercie.
Au revoir.
Bonne journée à vous aussi. Au revoir.
CQFD sur la première.